Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité.
Astérix revient sur le grand écran aujourd'hui, mais pourquoi tout ce ramdam autour du film ? Notre spécialiste cinéma nous dit ce qu'elle en pense.
Mais avant, vous payerez le train presque 10% plus cher à partir d'aujourd'hui. On vous explique tout de suite pourquoi.
Nous sommes le mercredi 1er février, je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
La SNCB augmente ses tarifs de près de 10% ce mercredi. Pour être tout à fait précis, le prix des abonnements augmente de 9,7% et celui des tickets de 8,7%.
Est-ce le bon signal en pleine crise du pouvoir d'achat et en pleine crise climatique ? Cette hausse n'est pas un choix politique, c'est simplement le contrat de gestion de la SNCB qui s'applique. On analyse avec Éric Renette, il est journaliste au service économie du soir et suit les dossiers des transports. Bonjour Éric.
Bonjour.
Pourquoi cette hausse des tarifs de la SNCB aujourd'hui ?
Elle s'applique le 1er février de chaque année. Celle-ci est particulièrement remarquable parce qu'elle est très importante, mais c'est chaque année, au 1er février, que la SNCB applique les nouveaux tarifs. Et chaque année, vers le mois de juin, la SNCB dit à partir du 1er février, voici les tarifs que nous allons appliquer, augmentation tarifaire qu'elle doit soumettre d'ailleurs au gouvernement, pour voir si ça respecte bien le mode de calcul.
C'est un mode de calcul qui se base en partie sur l'inflation. C'est pour ça que cette fois-ci, la hausse des prix est très élevée, en fait.
Exactement. Donc c'est un mode de calcul qui date du dernier contrat de gestion, qui prévoyait qu'on applique non seulement l'inflation, mais aussi, quand la SNCB atteint un certain niveau dans la ponctualité, elle peut augmenter cette augmentation tarifaire de 1%.
Quand les trains de la SNCB sont à l'heure, la SNCB peut augmenter ses tarifs de 1% de plus que le pourcentage de l'inflation.
Voilà. Et donc c'est ce qui est arrivé cette fois-ci avec une inflation qui était déjà record. Et donc on arrive à une augmentation record également.
La SNCB n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'alternative à cette hausse des prix.
Quand elle s'est rendue compte qu'on allait arriver pour certains produits à une hausse de presque 10%, la SNCB, un peu avant juillet, a proposé au gouvernement, écoutez, ça va être trop en une seule fois. Nous, on vous propose d'appliquer une première partie en juillet et une deuxième au mois de février. Comme ça, l'effort sera dilué en deux fois et donc ça paraîtra moins lourd pour les gens. Le gouvernement a refusé, donc on a une augmentation en une seule fois maintenant. En février, beaucoup plus forte et beaucoup plus impressionnante.
Qui doit sortir le portefeuille pour cette hausse ? Les navetteurs vont payer leur billet de train plus cher, mais est-ce que l'État va aussi plus contribuer au coût du rail ?
Alors donc, les navetteurs, les familles dont les enfants ont des abonnements pour aller à l'école par exemple, vont devoir mettre la main au portefeuille. Il ne faut pas oublier que les entreprises aussi, et pas un peu, puisque la majorité du coût du transport en train domicile-travail est pris en charge par les entreprises directement. L'État, lui, quelque part, va engranger un petit peu plus parce que comme il y a une TVA sur les billets de train, cette TVA va s'appliquer sur des montants plus élevés, donc ça va rapporter un petit peu, mais c'est assez marginal par rapport à l'ensemble de ce que la SNCB coûte ou rapporte, ça dépend de la manière dont on regarde les choses.
Pour clarifier, les personnes qui ont un abonnement, par exemple, jusque fin juin, un abonnement scolaire pour leur enfant, c'est lors du renouvellement de l'abonnement pour l'année prochaine que la hausse du tarif va s'appliquer, ce n'est pas dès ce 1er février.
Tout à fait, donc très majoritairement, la manière dont ça va impacter les gens, ce n'est pas maintenant. Non, tout de suite. Ce sera en septembre quand on renouvelle une grande majorité des abonnements, que ce soit pour le scolaire ou le domicile-travail. Leur abonnement, évidemment, reste tout à fait d'application et il ne demandera pas d'augmentation.
Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilquinet, a en tête une série de mesures pour faire baisser le prix du train. Vous pouvez nous expliquer ?
Le ministre de la Mobilité, Georges Gilquinet, espère toujours, ça fait partie de ses revendications qui durent, qu'à la prochaine discussion sur la réforme fiscale, il arrive à diminuer le prix du billet ferroviaire, qu'on en retire la TVA, donc 6% en moins, sur base notamment d'une logique qui semble logique à tout le monde, mais pas suffisamment, c'est qu'il n'y a pas de TVA qui s'applique sur les billets d'avion, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on ferait payer une TVA sur les billets de train ? et pas sur les billets d'avion. Le ministre veut qu'on diminue, ça ferait 6% en moins sur le billet. Mais en attendant que ces discussions aient lieu, et à savoir si ça peut s'appliquer dès cette année, dès le 1er février, la SNCB applique, comme elle le doit, l'augmentation tarifaire.
Quelles sont les chances que ces mesures voient réellement le jour ?
Dans une Belgique où la fiscalité est très compliquée et où on planche sur des réformes fiscales à peu près tout le temps et où elles aboutissent rarement ou à petite échelle, il faut, je crois, être raisonnable. Mais ça procède d'une certaine logique avec un gouvernement, une époque qui disent « oui, le ferroviaire, c'est une priorité dans la diminution des émissions polluantes » et ainsi de suite.
Cette hausse de prix, justement, est-ce que c'est le bon signal quand on sait qu'il y a une crise climatique et qu'on veut inciter les gens à prendre plus les transports en commun que leur voiture ?
C'est peut-être la seule chose qui fasse vraiment l'unanimité, c'est que tout le monde est d'accord pour dire « ce n'est pas du tout un bon signal, ce n'est pas du tout le bon moment ». Mais voilà, le calcul s'applique comme ça. La SNCB, la première à essayer de dire non, c'est trop, mais d'un autre côté, elle subit l'inflation comme les autres, elle paye son énergie plus cher comme les autres, elle a dû indexer les salaires comme les autres. Le ministre de la Mobilité, qui veut faire du train un exemple très vertueux, elle, le premier à dire non, c'est vraiment pas un bon signal à faire, et l'ensemble du gouvernement reconnaît non, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire, mais c'est ce qu'on doit faire. Jusqu'à preuve de faire mieux.
Vous l'avez dit, le ministre fédéral de la Mobilité, donc Georges Gilquinet, écolo, n'est pas très content de cette hausse des tarifs. À terme, il a parlé d'une forme de gratuité des transports en commun. C'est ça la solution ?
Les différentes tentatives de gratuité des transports en commun n'ont pas toujours été payantes. Par contre, qu'on fasse des prix les plus bas possibles pour les transports en commun est quelque chose qui, visiblement, a une vertu supplémentaire pour engager quand même les gens. La gratuité en elle-même, on l'a vu à Asselt, etc., ça permet d'augmenter à certains moments le nombre de fréquentations, mais pas de changer suffisamment la mentalité. Donc c'est mieux des prix attractifs.
Un prix bas est en fait plus attractif qu'un transport en commun gratuit.
C'est ce qui ressort de certaines études en tous les cas. Faites le train gratuit ou le bus gratuit demain, il y aura plein de gens dedans pendant combien de temps ? C'est ça qu'il faut voir. Et n'oubliez pas que ce qui est gratuit pour le consommateur, sera payé par le citoyen qui paye ses impôts. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est jamais gratuit. C'est de l'argent des gens qu'on utilise. Si ce n'est que le consommateur du train qui en profite, c'est un équilibre qui est mauvais. Si ça touche tous les consommateurs qu'on prend moins dans leur poche, c'est-à-dire qu'on n'applique pas vraiment la gratuité maximale, mais qu'on diminue les prix, là, ça rentre dans un autre équilibre et une autre approche, on va dire.
Est-ce que baisser les prix ou faire des transports en commun gratuits, ça permet d'inciter les automobilistes à prendre les transports en commun ? Est-ce que ça permet de changer les habitudes ?
Pas encore. On vient de 50 ou 60 ans de ma voiture, ma voiture, ma voiture. Et quand je serai grand, j'aurai une voiture. Quand je serai riche, j'aurai une plus grosse voiture. Il va falloir réapprendre à mieux calculer l'efficacité du déplacement. Que les gens réfléchissent pour dire qu'est-ce qui me coûte le moins cher ? Je dois aller de là à là. Quel est le système le moins cher ? Ce que, il faut reconnaître, les jeunes générations font visiblement beaucoup plus facilement. En intégrant les différents modes de circulation qui sont à leur portée, à trottinette, à vélo, quelle est la façon la plus efficace d'une part et la plus écologique et la moins chère d'autre part.
Comment le train peut devenir plus attractif aujourd'hui malgré cette hausse des prix ?
Le train est relativement attractif. Attractif. Le train en Belgique, fondamentalement, ne coûte pas très cher par rapport à d'autres pays voisins. La Belgique, dès qu'on sort du tarif brutal, on va dire, je vais une fois par an avec ma famille, deux peines à Ostende pour aller à la mer avec les enfants. Là, on paye le prix maximum et ça paraît cher, c'est cher. Mais dès qu'on rentre dans les systèmes d'abonnement, la Belgique n'est pas chère du tout. Pour 10 trajets en train, à 7,60€ je crois maintenant, c'est très concurrentiel par rapport aux trains ailleurs et par rapport à tous les autres modes de déplacement. Il faut renforcer les connexions avec les autres types de transports en commun, il faut renforcer l'utilisation du train dans les grandes villes. Mais le train reste quelque chose de très compétitif, il faut mieux le vendre. Plus le vendre, et c'est vers ça que la SNCB, le ministre, le gouvernement, etc., disent tous qu'ils veulent aller.
Pour avoir une idée, quelle est la part du coût total du voyage que le navetteur paye vraiment ?
environ un peu moins de 30% du coût effectif du trajet, sachant que si on lisse l'ensemble des trajets, parce qu'il y a des trains avec beaucoup de personnes qui font des longues distances ou des trains avec personnes qui font des courtes et ainsi de suite. Donc si on lisse le coût moyen, on est autour de 30%, ce qui est assez peu par rapport aux voisins européens. C'est une part assez limitée en fait.
Merci Eric.
Je vous en prie.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous emmène au cinéma aujourd'hui avec la sortie de ce début d'année, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
Le film est réalisé par Guillaume Canet qui joue aussi Astérix. On retrouve Gilles Lelouch en Obélix et toute une série de guest stars, d'Angèle à Orelsan. C'est impossible de passer à côté, le casting squatte vos journaux, vos TV, vos radios depuis une semaine. Fabienne Bradfer est notre experte cinéma. On lui a demandé pourquoi toute cette promo et surtout, faut-il aller voir le film ?
Il faut aller voir Astérix parce que Astérix et Obélix, ces irréductibles petits Gaulois, retrouvent une place centrale dans cette histoire qui est par ailleurs, pour la première fois au cinéma, un scénario original. Il faut aller voir aussi parce que l'histoire, il faut l'avouer, donne du spectacle, de l'action, de l'amour et, chose qui est importante, que les femmes ne sont pas des potiches, bien au contraire. Je dirais aussi qu'on peut aller voir Astérix parce que le casting ratisse large. Alors des fans d'Angèle à ceux qui sont curieux de voir les premiers pas de cinéma de Zlatan, mais que contrairement à Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques qui amenaient toute une ribambelle de guest stars, ici les guest stars sont intégrées habilement, elles ont au moins des choses à jouer.
Elles ont un vrai rôle, elles sont là pour une bonne raison.
Pour une bonne raison, parfois c'est très infime, il faut l'avouer, mais bon, ça s'intègre bien dans le scénario. Alors je dirais aussi que certains iront voir Astérix parce qu'il révèle l'histoire d'Obélix tombé dans la marmite de potions magiques. D'autres diront je ne vais pas aller voir parce que je ne veux pas savoir, mais voilà. Alors je dirais plus personnellement qu'on peut aller voir Astérix parce que j'aime Vincent Cassel en Jules César. Il est évidemment prétentieux, mais déstabilisé par ses problèmes de couple avec Cléopâtre. Donc finalement, Jules César est un mec comme tout le monde. Et on peut aimer aussi aller voir Astérix parce que je trouve que la façon dont Gilles Lelouch donne chair à Obélix est assez réussie, même s'il est dans le pas de Depardieu. On ne peut pas dire qu'il renouvelle, il est dans la lignée de Depardieu, mais il nous donne un attendrissant Obélix.
Est-ce qu'il y a quand même des points de réserve par rapport à ce film ?
Je dirais que j'aime bien le film, mais je n'aime pas totalement le film pour différentes raisons. Et la première, c'est que c'est un film qui veut plaire à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, fatalement, on dissile un peu sa personnalité. C'est ce qui arrive à Guillaume Canet. Donc, je dois dire qu'il veut plaire aux inconditionnels de la BD. Il veut plaire aux fans du film de Chabat. Il veut plaire aux familles, aux enfants et aux amoureux du cinéma. Donc, ça fait beaucoup. Et c'est la force et la faiblesse du film. Ça se retrouve aussi dans certains personnages du film, avec une volonté d'être plus dans de l'humour potage, dans de l'humour anglo-saxon. Parfois c'est inspiré, parfois c'est un peu lourd.
C'est ça, ratisser trop large, ça en fait un film devant lequel on passe un bon moment, mais qui ne restera peut-être pas dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire du cinéma d'humour français, comme peut l'être l'Astérix et Obélix de Chabat.
L'Astérix et Obélix de Chabat, à la carte, je veux dire, au niveau des critiques, bon, c'est un film clivant. C'est un film qui a touché un grand public, mais au départ, c'est un film qui a l'humour des nuls et l'humour de Canal+. Donc c'était très symptomatique de cette époque-là.
Quand même un humour de niche.
Voilà. Aujourd'hui, on est dans un autre rapport avec l'humour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une super production française avec 66 millions de budget. Donc c'était une grosse pression sur les épaules de Guillaume Canet, car il y a derrière ça une mission, c'est-à-dire de faire revenir les gens dans les salles. Donc il faut séduire. D'où aussi cette volonté de ratisser large.
On l'a dit à propos de beaucoup de films déjà depuis la pandémie, mais là, dans l'esprit des producteurs, c'est ce film-là qui doit sauver le cinéma.
À l'heure actuelle, dans la sortie des films de ce premier trimestre de l'année, il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence, même au niveau du cinéma américain. En plus, il y a des enjeux énormes, c'est justement la fréquentation en salle. Alors, Pathé, qui est un grand groupe français, a décidé de produire des films de patrimoine, je mets ça entre guillemets, mais Astérix et Obélix en fait partie, suivra Les Trois Mousquetaires, qui sortira début avril. Et donc, il y a vraiment une volonté de recréer un lien avec le public français d'abord, mais il faut avouer aussi que derrière la mission de Guillaume Canet avec Astérix et Obélix, l'empire du milieu, c'est aussi une volonté d'aller percer le marché très fermé, le marché chinois, qui est une des zones dans lesquelles les films français précisément, mais en l'occurrence les films européens voire américains, ont très peu de place.
Cette volonté de Pathé, c'est ça qui explique aussi cette promo faramineuse. J'ai l'impression que depuis quelques jours, partout, en télé, en radio, en presse écrite, il n'y en a que pour Astérix et Obélix.
Évidemment, aucun spectateur ne doit ne pas savoir qu'Astérix et Obélix sortent sur les écrans. Donc il y a une grosse campagne promotionnelle, il y a une grosse opération d'affichage, et c'est pour mobiliser les gens. Et il y a même, à la limite, je ne sais pas si ça sera productif ou contre-productif, on verra les résultats en salle, mais c'est même de dire... Vous avez un devoir d'aller au cinéma pour sauver notre métier, notre cinéma hexagonal.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
À demain.